Interjection. Intersectionnelle.
Ça sent la linguistique, tout ça.
Intergénérationnel.
J'ai monté un peu le son parce que
pourquoi,
vraiment...
C'est quoi
ce petit morceau
de
Black Sidahu, In Case I Fall For You.
Je préfère votre accent français.
Very good.
Votre accent littéraire. Ça va, Baxter?
Mais oui, très bien, une coque.
C'est pas shaké, comme on dit, outre-manche.
Shakons-nous.
Sinon
Shake
your body. You know this song?
Et your spirit dans tout ça. And your mind. Your mind. Bon, c'est quoi ce bordel? Elle est où pour nous?
Eh bien, écoutez, ma chère consoeur vous attend instamment.
Au fond?
Au fond.
Du oui, de la librairie.
Fond de la littérature.
Oui.
Pessoa va vous parler, je crois.
Obrigado.
MDM. Tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres, en italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur les rapports entre les femmes et les animaux?
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Et comme on dit, le long de la route 66, Pourny is good for you. Dans les librairies hein, de la route 66. On va voyager au Pourny, bonjour.
Bonjour, ah oui, on va aller loin là.
Si j'ai bien compris, on va entre le pays du soleil levant et le Portugal.
Et on va aller du 20e siècle au 11e siècle.
Ah ben, voyage dans le temps
et dans l'espace.
Comment on dit bon dia, dans la langue de Pessoa.
Dans la langue de Pessoa. Allez, on commence par Pessoa. Non, je ne vais pas vous présenter le jeune auteur Pessoa.
Vous pourriez. Hein.
Je pourrais.
Ah, alors, je vous coupe tout de suite. Je suis allé à Lisbonne et il y a plein de gens qui se font prendre en photo devant la statue mythique de Pessoa, de Français.
Oui.
Ils ne savent pas qui c'est. C'est Hemingway.
Eh bien, il va falloir lire cette BD avant tout.
Picoler comme Hemingway, mais...
Mais oui,
mais c'est pas lui.
Comme tout génie et comme tout auteur. Littérature et alcool ont toujours fait bon ménage. Ouais, oui, bah oui.
Et vous, ça va?
Je vous présente une bande dessinée, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle L'intranquille Monsieur Pessoa, par Barral, paru là aux éditions d'Argo. Alors à Barral, on lui doit notamment des Nestor Burma et des Black et Mortimer, et aussi la série Dieu n'a pas réponse à tout. Et là, une bande dessinée pour rentrer dans l'œuvre et dans la tête, si tant est qu'il y ait une différence chez Pessoa, de ce fameux auteur génie, à titre posthume, évidemment. Le livre s'appelle « L'intranquille Monsieur Pessoa ». C'est un auteur multiple,
ouais.
Vraiment, entre
poésie,
essai, poésie, roman. C'est pas évident. Moi-même, j'ai mis du temps à comprendre qui est cet homme, et cette BD m'a permis de mieux saisir qui était Fernando Pessoa.
Qui est portugais, hein, au cas où on l'aurait pas saisi. Hein.
Très rapidement. Il est né à Lisbonne en 1888, il est mort en 1935. C'était un employé de bureau, mais un génie qui se cachait sous un employé de bureau. Il a très peu publié de son vivant, et à sa mort, on a découvert une malle dans laquelle se trouvaient plus de 27 000 feuilles parce qu'il écrivait énormément. Et il a fallu attendre 1982 pour que paraisse cette révélation mondiale qu'est le livre de l'intranquillité, qui a été publié et traduit en France en 1988. Donc il a fallu attendre plus de 50 ans avant de découvrir ce monstre de la littérature mondiale. Pour faire simple, raconter d'abord vite fait l'histoire de la bande dessinée. On est en 1935, Pessoa va bientôt mourir. Un jeune pigiste, Simão Cerdeira, est embauché pour écrire sa rubrique nécrologique. Donc on suit l'enquête de ce jeune pigiste et en même temps on suit aussi les derniers instants de Pessoa, ponctués évidemment de souvenirs et comment il a créé ses fameux pseudonymes. Parce que dans cette malle, on a découvert, et même de son vivant, il a beaucoup écrit avec des pseudonymes. Il appelait ça des hétéronymes, parce que c'est comme des parties de lui-même. Voilà, un petit côté schizo. Mais tous ces personnages fonctionnent, ont une telle complexité qu'on croit qu'ils existent. Il a évidemment, de son vivant, piégé quelques-uns de ses proches, tellement ses amis imaginaires ont une telle consistance que c'est comme s'ils existaient. Et c'est à travers ces différents personnages, c'est l'œuvre de sa vie, c'est ce qu'il disait, son projet, je veux tout sentir de toutes les manières. Et il a incarné différents personnages, il y a plus d'une centaine de pseudonymes. Le livre de l'intranquillité, le chef-d'œuvre qui a rassemblé un peu tout ça, présente trois de ces personnages-là. Pourquoi l'intranquillité ? C'est quoi l'intranquillité ? C'est toutes les contradictions qui nous habitent. Par exemple, Pessoa disait beaucoup « la solitude me pèse, mais les autres aussi me pèsent ». Donc on vit avec toutes ces contradictions-là. C'est ce qu'il racontait dans cette espèce de d'autobiographie sans événement, parce que Pessoa n'a pas vécu, il a écrit. C'est l'une de ces questions, hein. Faut-il écrire pour vivre ou vivre pour écrire ? Ce que tous les auteurs se posent toujours cette question-là. Et dans son journal, on va lire tout ça. Ça n'est pas de l'intellectualisme et il n'y a pas d'abstraction non plus. C'est vraiment ce quotidien et on est dans la philosophie de Pessoa.
Et il avait d'autres activités à côté ?
Très peu. Mais non, mais ça le...
Une
ça
famille le...
Oui, il avait une sœur.
C'est celle qui est en Afrique du Sud, non ?
Oui, qui a beaucoup voyagé, qui est revenue au Portugal, aussi au décès donc, de son frère. Et c'est elle, son ayant droit. Donc voilà, cette BD, c'est vraiment le moyen d'entrer dans l'œuvre de Pessoa. C'est comme ça un monument de la littérature mondiale. Je comprends qu'on puisse se dire... Bon, je vais peut-être pas lire ça de suite, je vais peut-être pas m'y attaquer, c'est assez énormissime. Mais la BD, L'intranquille Monsieur Pessoa, permet vraiment d'aborder cette œuvre en toute sérénité. Et après, on relit évidemment le livre de l'intranquillité avec beaucoup plus de facilité et de compréhension. Parce que c'était vraiment un homme multiple et sa littérature est multiple aussi.
L'intranquille Monsieur Pessoa, on va quitter Lisbonne pour partir au Pays du Soleil Levant. On va faire une pause, on va rester quand même au Portugal avec le chanteur Paulo Furtado, mais qui chante en anglais avec un duo avec une Italienne qui s'appelle Asia Argento. On marque une très sensuelle pause et on se retrouve juste après.
What you gonna do? Yeah, what you gonna do? Voix d'Asia Argento et de Paolo Furtado entre Italie et Coimbra au Portugal pour cette petite pause musicale avant de vaquer vers le pays du soleil levant avec un grand, c'est même plus un classique, c'est un pan, c'est un,
oui, que dis-je, un autre. Alors aujourd'hui c'est vraiment monument de la littérature mondiale, ouais, des deux côtés. Tout à l'heure adapté en bande dessinée pour Pessoa, et là adapté en manga évidemment puisque nous allons au Japon. Il s'agit de l'adaptation manga du célèbre roman Le Dit du Genji de l'autrice Murasaki Shikibu. Évidemment, cette
ferai aucune réflexion
sur mon accent japonais.
Par exemple.
L'adaptation manga par Waki Yamato qui vient de paraître aux éditions Panini Manga.
Alors, je n'ai pas pris littérature nippone en option lors de mon court passage en lettres modernes. Mais... vous pouvez me dire que c'est un classique ou que c'est le bouquin hyper underground, voire de la beat generation japonaise. Je ne sais pas, je ne sais même pas comment dire en japonais. Je ne sais pas, il va falloir tout m'apprendre.
Qui, mais bien sûr.
Enseignez-moi.
Mais. Oui, c'est un texte qui date du XIe siècle et qui a énormément inspiré peintres, sculpteurs, laqueurs aussi, enfin toute la...
Au-delà de la littérature.
Mais oui, au-delà, le Japon médiéval est connu dans les arts en s'inspirant de ce fameux texte, le dit du Genji. Le dit, ça peut être traduit comme roman ou conte, le conte du prince Genji. Alors, très rapidement, donc nous sommes au XIe siècle, c'est une ère impériale au Japon, c'est l'époque des Carolingiens en France, juste pour vous situer un petit peu. C'est une grande période de paix, propice aux arts, et on suit la poétesse Shikibu, qui est un peu l'équivalent d'une Jane Austen japonaise. Son père est aisé, et elle accède à l'éducation, elle est lettrée, et donc elle écrit la vie à la cour impériale à cette époque-là. Le roman se passe, le roman-récit, ouais, le dit, le conte, se passe sur 75 ans de la cour impériale. Les enfants connaissent ce texte au Japon, un peu comme nous on connaît les Gaulois par Astérix par exemple.
D'accord.
Pour vous situer un peu, oui, l'ampleur du texte.
Qui n'a pas lu le Dit du Genji pas...
Mais oui, sachant que tout ce qui est raconté dans Astérix est vraiment romancé, il y a un fond réel, mais il y a quand même énormément de... Ce n'est pas évidemment du texte historique.
Donc Falbala...
Non, n'a pas existé.
Il a la Schtroumpfette. Non plus.
Tu confonds.
Non, mais je sais bien, mais je pense à toutes ces blondes qui incarnées dans des bulles.
Entre autres. Bon, bref, l'humour en moins, évidemment. On suit les aventures amoureuses de Hikaru Genji, qui est le fils de l'empereur, mais il ne peut prétendre au trône. Il est très très beau et il est surtout amoureux de la favorite de son père. Donc un amour interdit. Pour essayer de se sortir cette femme de la tête, il va courir les jupons. C'est un peu le Casanova
du Japon.
Du Japon, ouais, bien, voilà. Non mais j'essaye de... Ah, voilà, quelques référents. Mais au-delà de la romance, au-delà évidemment, comme on a la cour impériale, c'est les jeux de pouvoir, les intrigues, la jalousie, évidemment, les rapports hommes-femmes. Ce texte-là est considéré comme le tout premier roman psychologique au monde. Vraiment. Parce que il y a évidemment une grosse critique des mœurs de l'époque, à travers ce Casanova impérial, et énormément de monologues intérieurs sur la philosophie du temps qui passe. C'est une philosophie très importante au Japon. La symbolique des cerisiers en fleurs est mondialement connue et reconnue. Ce côté contemplatif qui est un art au Japon. Chez nous, l'action annihile complètement la réflexion.
Là-bas, le temps s'arrête.
Le temps est différent. Donc il y a tout ça aussi dans ce roman qui fait qu'il est considéré comme le premier roman psychologique du monde. Mais là, on n'est pas en train de parler de ce fameux roman. Yaki Yamoto, qui est la mangaka qui a dessiné et écrit ce manga, c'est le tome 1 qui vient de paraître. Elle s'est inspirée, comme toute cette génération d'artistes avant elle, de toute l'iconographie qui existe autour de cette œuvre qu'on retrouve dans ce manga. Donc on pourrait évidemment le lire comme une romance, mais ça va quand même vraiment au-delà de ça, parce que c'est un texte évidemment très très dense. Il y a plus de 200 personnages. Mais il faut pas avoir peur. L'un comme l'autre, ce sont deux monuments de la littérature mondiale, mais qui permet la BD et le manga d'entrer dans ces œuvres-là sans se dire « Non, c'est pas pour moi, c'est trop énorme. »
Mais non, on ne dévalorisait pas. Enfin.
Vous pouvez, évidemment.
De l'international de la littérature, de la BD, du manga, avec Yobaral et l'intranquille Monsieur Pessoa aux éditions Dargaud, et le dit du Genji de Waki Yamato aux éditions Panini.
Oui, mais comme Panini, mais tout
comme
à fait.
Comme les vignettes.
Mais comme les vignettes, tout
mais
à fait.
Mais c'est les mêmes, non mais,
oui, c'est un gros groupe, évidemment. C'est un texte énorme.
Ah, des photos de Patrick Battiston et du manga japonais.
Et oui.
Quelle belle planète. Dansons ouais. Dessus.
Mais oui, dansons.
Et vaille que vaille.
Et t'en vas la cruche à l'eau.
Qu'à la fin, elle se pourfend.